Bonjour et bienvenue sur Raise by Moviskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Moviskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus, afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Darcy accueille au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Raise. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Héloïse, team leader chez Mobiskill, et nous accueillons Ise Pissama, software engineer chez Sena. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Très bien, fraîchement.
Superbe. Écoute, Hélo, je te donne la main.
Yes, alors Ise, je vais te poser quelques questions pour briser un peu la glace. Des questions assez simples. Pour toi, c'est soit vélo ou trottinette électrique ?
Vélo, absolument.
Salle de sport ou cours collectif ?
Cours collectif.
Hôtel ou Airbnb ?
Hôtel.
Télétravail ou vacances illimitées ?
Vacances illimitées, totalement.
Management technique ou manager coach ?
Coach.
Inclusion ou diversité ?
C'est un peu la même chose, non ?
Alors, pas tout à fait, mais c'est toujours la question un peu tricky ou personne... Ou alors, on me dit les deux.
Inclusion.
Allez, parfait.
Et du coup, présente-toi en deux mots. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie.
Ok, donc moi, c'est Ise, j'ai 27 ans. Je viens d'abord du Gabon, ensuite j'ai vécu à Toulouse. Et là, du coup, je suis software engineer chez Sena depuis à peu près 8 mois. Et du coup, ouais, je fais du développement full stack, JS.
Ok. Parfait. Et quand tu étais ado et que ta conseillère d'orientation t'a demandé ce que tu voulais faire plus tard, tu lui as répondu quoi à ce moment-là ?
À ce moment, je pense, en terminale, je voulais faire océanologue.
Ok.
Okay.
Et du coup...
Il faut nous en dire plus. Ouais.
En gros, je ne sais pas, je voulais soit être océanologue, soit être garde forestier, en tout cas travailler avec des animaux, etc. Et je me rappelle après que du coup, mon cousin m'avait dit « Ouais, ça, c'est des bacs options chômage. » C'est des formations options chômage. Et du coup, après un moment, quand je réfléchissais, j'étais en mode « Bah, vaut mieux faire un métier d'avenir. » Et c'est comme ça que je me suis dit « Bah, vas-y, les nouvelles technologies de l'information et tout, ça peut être cool. » Du coup, à la base, je me suis orientée en informatique, pas pour faire du dev.
Ok.
Pour faire de la télécommunication, okay. À la base.
Et comment tu t'es orientée vers le dev, justement ?
Ben, en gros, c'est en première année d'école. Du coup, on a commencé à faire les premiers cours de développement, etc. Et je me rappelle, au début, ben, on faisait du C, du Python, de l'algorithmie, rien de spécial. Et quand on a fait le premier cours d'HTML, j'ai vu que la manière dont tout était live, ça m'a tout de suite donné envie de refaire plus, en fait. Contrairement à tous les cours de programmation, là, c'était vraiment live, tu changeais une couleur et du coup, bah, j'ai commencé comme ça à être plus curieuse de ça. Et c'est comme ça que du coup, bah, le premier stage, je l'ai fait dans le développement. Et après, j'ai refait, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je vais faire et pas du tout tout ce qui était télécommunication. Et du coup, je me suis retrouvée comme ça. J'ai fait les 5 ans en faisant du coup, bah, tous les deux premiers stages dans le développement et les 3 ans d'alternance dans des boîtes tech.
Ok, et justement, raconte-nous ton premier jour en tant que développeuse.
Ben, je ne sais pas s'il faut prendre le stage ou s'il faut prendre plutôt... Parce que le stage de première année, c'était un peu particulier. C'était juste une association qui nous avait demandé de faire un site web et tout pour eux. Du coup, ben, on était avec l'école. Donc, on était dans les locaux de l'école. On était 3 personnes. Il y avait quelqu'un qui venait nous superviser, nous donner des tâches pour faire. Et du coup, c'est comme ça. Au final, j'apprends... Je ne connaissais pas encore vraiment le langage qu'on allait prendre. À l'époque, c'était de l'Angular. Et du coup, c'est comme ça qu'on a découvert. Mais c'était assez cool.
Ok. Et ton premier jour dans ton premier job, comment ça s'est passé ?
Bah, dans mon premier job, ça s'est super bien passé. Du coup, c'était mon premier CDI, je l'ai fait à Paris. Mais mes alternances, je les ai fait à Toulouse. Et du coup, bah, j'arrive dans une petite boîte, là, dans le deuxième. Et du coup, bah... On était 13 personnes à peu près, vraiment petites, et du coup, bah, j'arrive, je suis la seule fille, ils ont été très bien, bon accueil, comparer, en fait, l'accueil était meilleur. En tout cas, en entreprise, l'accueil est meilleur qu'à l'école.
Ok. Ça marche. Tu veux nous en dire un petit peu plus par rapport à comment ça se passait en école ?
Bah, en école, c'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas se mentir. Les garçons, à cet âge-là, ils sont un peu bêtes. Et du coup, bah, moi déjà, je pense, j'avais grandi en Afrique, donc j'avais grandi au Gabon. Quand je suis arrivée là à 18 ans, j'avais une maturité un peu différente de celle des garçons d'ici. Et vu qu'on n'était que 4 filles pour une classe de 30 garçons, c'était des blagues bêtes de temps en temps, du sexisme, des trucs pas très très... pas très très, comment dire... conformes, etc. Mmh. Donc vraiment... Et du coup, bah, c'était pas évident, l'inclusion, les blagues, les ceci, les cela. Ce qui fait qu'au bout du premier trimestre, il y en a une qui avait déjà abandonné.
Ok.
Parce que l'environnement était pesant, c'était lourd, c'était... Alors que c'est, du coup, en entreprise, c'est beaucoup plus différent dans le sens où bah, les gens sont un peu plus adultes et plus matures. Ils sortent pas de leur chambre d'ado, etc. Donc,
Ok. Et toi, tu as fait comment justement pour tenir... pendant tes études et te dire je vais pas écouter ce qu'il me raconte.
En vrai, l'école coûtait cher et mes parents payaient.
C'est une bonne raison. Oui, c'est vrai, c'est une bonne raison.
Du coup, juste pour ça, genre, c'est vrai qu'à un moment donné, je me posais la question, mais qu'est-ce que je fous là ? Et au bout de la première année, une autre fille aussi était partie. Okay. Donc on s'est retrouvés que deux en deuxième année. Mais c'est vrai qu'à un moment, je regardais le prix de l'école pour mes parents qui vivent au Gabon, qui m'ont envoyé et tout ce qu'ils avaient mis. Je ne pouvais pas genre, me dire, vas-y, parce que c'est pour ça que du coup, je me suis accrochée. Et, comme et j'ai fait de l'alternance très tôt, du coup, j'avais ces moments en entreprise pour respirer un peu, comparé du coup, quand tu étais à l'école.
Ok, très bien. Et aujourd'hui, tu es chez Sena. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que fait Sena exactement ?
Sena, à la base, c'est une assurance, mais du coup, maintenant, bon, ça reste toujours une assurance, mais ça propose aussi une plateforme aux courtiers pour pouvoir, en gros, élargir leur domaine de métier et prendre tout ce qui est, du coup, simplifier l'assurance.
D'accord.
En gros, c'est ça. Si on simplifie, c'est une plateforme pour simplifier et rendre accessible l'assurance à tous. Donc, des parcours de souscription et des parcours de sinistre, etc., pour... permettre à tout courtier de développer rapidement un nouveau produit d'assurance.
Ok. Et pourquoi tu les as rejoints ?
Parce que du coup, en gros, moi, en fait, j'ai trois trucs quand je cherche un boulot. C'est, je veux dire, bah, du coup, le produit, il faudrait que le produit et les services que fournissent l'entreprise fassent sens à mes yeux, mais non, aient aussi un sens dans la vie de tous les jours, en fait. Que ce ne soit pas juste un endroit, un truc dont je ne comprends pas, parce que je me dis que quand tu comprends ce que tu fais, tu comprends ce à quoi ça sert, tu vas être beaucoup plus impliqué. Et dans ce sens-là, du coup, bah, le fait de me dire, bah, en gros, on a tous l'assurance, c'était un truc que j'avais jamais fait avant, mais j'ai toujours fait de la tech, et je pense que la tech peut, comment dire, peut solutionner plusieurs problèmes, et que du coup, bah, l'assurance, on sait tous que c'est chiant, et qu'on abandonne tous dans la manière dont quand on a un sinistre, ou quand on a un truc, parce que bah, y a trop de complications. Et de me dire, ah, en fait, on va faire un truc utile, rendre simple l'assurance, accessible à tout le monde. C'est pour ça. Et du coup, la deuxième partie, c'était pour la capacité d'apprendre et de progresser techniquement. De me dire, en fait, j'estime que je n'ai pas la science infuse et que je peux toujours apprendre et que j'ai besoin d'être dans un environnement technique dans lequel je vais progresser, m'améliorer, monter en compétences et toucher à de nouveaux trucs.
Ok. Et qu'est-ce que propose Sena en particulier en termes de formation pour apprendre, pour monter en compétences sur différents domaines ?
En gros, que t'apprécies chez eux ? En termes de formation, on a accès à différents trucs, mais en fait, il y a un peu un mantra chez Sena dans les différentes valeurs. Il y a own it, build it, c'est-à-dire en fait, tu prends un sujet et il t'appartient et tu dois le mener à bien. Dans ce sens-là, où du coup, tu as un peu de la liberté d'apprendre, de toucher à différentes technos que tu n'avais peut-être pas vues avant. Là, déjà, depuis que je suis arrivée, il y a plein de trucs, genre GraphQL que je n'avais jamais fait. Je suis passée sur de AWS. Donc, ça, au niveau, je sais qu'en sortant de là, mon CV, j'aurais quand même rajouté plein de trucs à mon CV et que du coup, c'est une bonne. C'est un bon truc.
Bah, très bien, tu as répondu à ma question suivante, donc tu as fait une bonne transition. Je voulais savoir comment ça se traduisait au quotidien, du coup, cette devise. Donc, je pense que tu as tout dit pour le coup.
On va parler un petit peu de gestion de ta carrière. Comment tu as construit ta trajectoire et ta carrière ? comment tu t'es dit d'un job à un autre, je vais aller là, je vais aller là, c'est ce job-là qu'il me faut ou cette formation-là qu'il me faut?
Bah, du coup, un peu par opportunité, dans le sens où quand je suis arrivée, quand j'ai décidé que je voulais faire de l'informatique, j'ai souscrit une école, etc., je me suis retrouvée dedans. Et là, du coup, j'ai su que je voulais faire du développement. Donc, moi, j'ai principalement travaillé dans des startups, mm-hmm. parce que je trouve que c'est l'un des bons endroits formateurs, dans le sens où tu as beaucoup plus de responsabilités et tu peux très, très vite monter en compétences mm-hmm. sur plein de sujets. Donc, au début, j'ai d'abord travaillé dans une petite startup stagiaire où ils avaient juste fait un Kickstarter pour en développer from scratch une plateforme de tracker de suivi. Et ça prenait en compte une technologie, donc Sigfox à l'époque. Et mm-hmm. du coup, donc en bossant sur ça, après, je me suis retrouvée à bosser dans la boîte qui fournissait la technologie.
D'accord.
Donc, en étant en contact, etc., je me suis... Et après, à un moment, quand j'ai fini mes études, j'avais le choix entre qui restait à Toulouse ou rester à Paris ou monter. Et je me suis dit, à Paris, il y a quand même une opportunité de boîte et de grands trucs. Moi, je me dis, en fait, c'est important dans sa carrière d'avoir de très, très belles boîtes. Et souvent, je choisis les boîtes dans lesquelles je vais travailler au potentiel qu'elles ont. Ouais. En me disant, ça, c'est peut-être la future licorne, ça, c'est peut-être ça. Et du coup, c'est comme ça que de fil en aiguille, quand je vois que j'apprends plus quand je vois que du coup, j'apprends plus ou que ça se passe peut-être bien, je ne reste pas coincée dans le me dire, j'ai un CDI, il faut que je le garde. Mm-hmm. C'est plus, quand je vois que mes critères ne sont plus remplis, je me dis, il faut que j'apprenne de nouveau. Et à ce moment-là, j'essaie de regarder.
Ok.
Et comment tu te vois évoluer là, aujourd'hui chez Sena?
Pour l'instant, je me vois encore assez bien évoluer chez Sena parce que du coup, il faut... Là, on a une leader, etc. Donc, c'est d'abord déjà de monter en compétence sur différents sujets, progresser dans la leader et en espérant que du coup, Sena soit la prochaine licorne, etc. Et que du coup, on avance bien. Donc, je pense, on me voit encore là quelques années, histoire de monter en compétence, de monter en grade et de prendre plus de largement de sujets. Notamment sur un scope qui concerne ma squad, mais qui concerne aussi plus l'engineering en global.
Tu peux nous parler de comment est construite l'équipe technique avec les différentes squads et sur quoi vous bossez chacune?
En gros, chez Sena, on est constitué en trois squads avec chacun des scopes un peu différents, mais qui au final se regroupent parce que le but, c'est qu'on crée une plateforme end-to-end. Et que du coup, chaque squad est composé d'un PM, d'un engineering manager mm-hmm. et de quelques devs.
Ok.
Donc là, actuellement, chez Sena, on a trois squads. Moi, je suis dans une squad qui fait de la conformité, qui fait aussi un peu de gestion de sinistres mm-hmm. et un peu de gestion de produits. Donc en gros, chaque développeur et chaque squad, ils ont leur propre périmètre.
D'accord.
Mais après, on a bien évidemment des trucs très communs parce que ça reste quand même la même base qu'on est en monorepo. Et du coup, il y a quand même des trucs qui sont communs. Et ensuite, après, pour que justement il y a cette partie de transversalité, on a tout le temps des points entre squads pour du coup s'influencer les uns les autres, donner, dire nous on a fait ça, etc. Ça serait bien qu'on passe ça et du coup justement partager cette connaissance. Et pas que les connaissances restent cloisonnées au niveau des squads.
Ok, très bien, merci. On va revenir un petit peu à la parité dans ta carrière. Dans quelle mesure est-ce que tu as vu des différences notables entre tes pairs masculins et toi, dans ton quotidien ou dans ta carrière en général?
Oui. Donc, en gros, dans la parité, déjà, il y a toujours... j'ai rarement beaucoup travaillé avec beaucoup de filles. Mmh. Déjà, à l'école, on n'était pas nombreuses. On était quatre au début, plus on a fini à deux. Je crois à trois en dernière année. Et du coup, quand je suis arrivée en mon premier CDI, je n'avais pas vraiment beaucoup de comparés. J'étais vraiment la seule fille de la boîte. Non, une côté opération. Mm-hmm. On n'était vraiment que deux filles dans une boîte de garçons, mais vraiment une vraie boîte de garçons. Et du coup, par exemple, dans la boîte précédente, je remarquais que du coup, les garçons, j'avais un collègue qui, lui, du coup, il s'affirmait beaucoup plus, même quand il n'avait pas raison et tout, il était beaucoup plus dans le truc, alors que nous, moi, j'ai toujours été en mode, je donne mes arguments et je dois toujours prouver, etc. Je ne prendrai peut-être pas la parole pour dire des conneries, mm-hmm. dans le sens où on a tendance à dire que des trucs vrais et pas genre à pas prendre des risques en disant bah vas-y je dis ça comme ça et puis on verra c'est pas grave si ouais. c'est faux ou pas juste et du coup peut-être à s'auto-censurer parfois mm-hmm. parce que bah si on n'est pas sûr totalement de ce qu'on a à dire souvent on va pas la porter.
Ouais.
Et tu nous avais parlé de tes inquiétudes, notamment la maternité, la gestion d'une carrière en ayant des enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, c'est parce qu'en gros, je posais la question de... Ouais, maintenant, c'est un peu différent. C'est vrai qu'avant, même que ce soit homme ou femme, c'était rare de voir des développeurs vieux. Dans le sens où, en France, c'était plus... genre, si à un certain âge, t'es pas en train de faire du management, c'est que t'as peut-être raté un peu mm-hmm. ta carrière, etc. Là, c'est de moins en moins vrai parce que du coup, il y a des nouveaux postes qui s'ouvrent, genre senior staff ou staff engineering.
Ouais.
Et du coup, je sais que par exemple, le métier de développeur, c'est un métier qui prend beaucoup dans le sens où il faut faire de la veille, il faut tout le temps s'informer, etc. Il faut garder un peu un œil sur ce qui se fait. Et du coup, moi, mon truc, c'était du genre, bah, quand t'es maman, quand t'arrives à un moment où t'as des enfants, à quel moment tu gardes le temps de... continuer à lire en dehors du travail, continuer à faire des meet-up, continuer à faire exactement juste, pas forcément pour quitter juste le scope qui est lié à ton travail, mais plus le scope global qui est lié à l'environnement mm-hmm. tech, dans le sens. Et c'était plus ça, en gros, de me dire, bah, en fait, est-ce que c'est conciliable ?
D'accord.
Le fait d'avoir des enfants, de la charge mentale, etc., et de toujours devenir... Rester un développeur, je pense que c'est possible, mais être un bon développeur en ayant...
une vie de famille...
À côté.
Ouais, ok. Justine Bonneau, qu'on avait reçue il y a quelques temps, qui nous en parlait, Profil Technique, elle a ouvert sa boîte en étant enceinte. Et justement, elle a raconté qu'avoir son enfant, c'était plus une force qu'un frein dans le reste de la gestion de sa boîte.
Et pour terminer, si on doit faire une photographie de son parcours pro jusqu'ici, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui ?
De quoi je suis la plus fière aujourd'hui ? Je pense que ça va être... en fait, du parcours en général, le fait d'avoir pris des risques, de ne pas être resté juste dans des endroits parce que du coup, de ne pas avoir pris de pas être resté dans ma zone de confort. Bon, de tout le temps devoir me dire, vas-y... là, c'est, j'apprends plus, là, je progresse plus, peu importe si tu as un crédit derrière ou un truc dedans, de te dire, vas-y, je saute le pas, de pouvoir démissionner, de recommencer un truc à zéro. Je pense ça, en fait, le fait de... Parce que je connais plein de personnes qui ont du mal à démissionner, même en étant dev, alors que le marché est pour nous. Je suis en mode, fier de ça, le fier de me dire... je prends des risques, j'écoute surtout pas ce qu'on me dit. On me dit, t'arriveras pas, ou machin, et tout, c'est bien, tu veux toujours trop, ou bien... Ou qu'on me dise, il y a pire, mais il y a mieux aussi.
Ok, et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta carrière ? Quel obstacle, tu penses ?
Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? J'ai pas l'impression d'avoir eu une carrière difficile. J'estime que juste ce qui était le plus difficile vraiment, c'était au niveau de l'école. Mmh. Où du coup, t'avais plein de remarques, on te disait c'est parce que t'es une fille, etc. Et le fait d'avoir perdu la confiance en soi. Mais ça, après, tu la regagnes facilement dans le sens où quand t'arrives en entreprise, tu te rends compte que c'est pas parce que t'es une fille que t'es là et que du coup, les commentaires des autres ne veulent rien dire parce qu'on va pas te payer à être une fille.
Oui.
Juste être là. Du coup, ça, c'était un peu difficile au début. Ouais, c'était de prendre confiance en moi et de me dire que non, en fait, si je suis là, si on m'a pris moi, c'est pour mes compétences et non pour faire les quotas. Mm-hmm. Parce que de toute façon, j'ai toujours travaillé dans des petites boîtes. Et dans les petites boîtes, on s'en fout des quotas. Et du coup, c'est vrai parce que ça, on me répétait souvent à l'école mm-hmm. Mais là, t'as de bonnes notes parce que t'es une fille, t'as des points bonus parce que t'es une fille, etc. Et du coup, à un moment, tu devenais un peu... tu étais persuadée de ça, que peut-être que c'est parce que t'es une fille, mais en fait, ça, c'était dur. Mais une fois que j'ai repris le dessus en me disant, en fait, non, ce que j'ai accompli, j'ai fait ça. Et puis, de toute façon, je délivre autant. Mm-hmm. Donc, une fois que j'ai eu ce switch-là, c'était bon.
Ça marche. Et quels sont tes tips pour une femme qui se lance dans la tech ?
Bah, de ne pas écouter les autres, de se dire bah, en fait tout est possible, parce que moi j'ai peut-être un parcours assez machin dans lequel j'ai fait une école d'ingénieur, etc., en informatique directement, mais même si on n'a pas fait une école d'ingénieur, on peut toujours se reconvertir. Mmh. Et en gros, il ne faut pas avoir peur de se lancer, parce que tout est accessible et on pourra toujours tout vous dire. Même si ça paraît difficile au début, que ce soit dans les formations, dans les machins, parce qu'il n'y a pas de trucs, mais si en fait on ne se met pas dans les formations, il n'y aura jamais de parité. Donc elle se lance et que de toute façon, elle verra sur le tas, tout s'apprend.
Parfait. Bien, merci beaucoup Ize.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Raise.
Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Raise.